Tout le monde connaît Maïté. D'accord. Hop là.
Ah, cool.
Ah, c'est trop fort. J'avais peur d'être trop vieux et que vous ne sachiez pas qui est Maïté. Voilà. Parce que quelquefois, je commence à avoir des références un petit peu moisies. Donc, on va aborder, après l'intro d'hier, on va aborder le vif du sujet. Et en fait, vous êtes tous venus pour ça. Pour voir du sang. Voilà, ouais. Nous avons un serial killer parmi nous, enfin, un psychopathe, enfin, voilà. Qui a d'ailleurs commencé à se trancher la gorge, d'ailleurs, ce matin, apparemment, en se rasant. voilà. Qui a déjà bu de son propre sang, parce qu'il faut qu'il tienne un peu la route, hein. Donc on va aborder donc les sacrifices. Si vous ouvrez votre petit livret à la page, je sais pas combien, 11, vous allez voir que nous allons aborder le chapitre 1 du livre du Lévitique. Peut-être que vous l'avez vu en lisant le Lévitique pour préparer votre venue à ce camp. Les sacrifices occupent une bonne partie du livre du Lévitique. Ça occupe en tout cas les 7 premiers chapitres. Donc on va lire le chapitre 1, mais on va couvrir en fait les 7 premiers chapitres en même temps. Et en plus, on va aller voir aussi dans d'autres chapitres du Lévitique, parce qu'il y a d'autres. On nous parle d'autres sacrifices aussi dans d'autres passages. Donc on va aller aussi les voir. Donc vous allez voir, ça va être assez complet. Voilà, cette notion de sacrifice, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour dire qu'elle est essentielle pour nous sous la Nouvelle Alliance, parce que voilà, on va faire quelques rapports avec le Seigneur Jésus. Et puis après, on va tirer, comme d'habitude, des applications personnelles. Mais pour l'instant, voilà, avant de penser à Jésus, n'oubliez pas, vous êtes hébreux, vous venez de sortir d'Égypte. Dieu vous a libéré à grands coups de miracle, il a vaincu la plus grande armée du monde, et vous lui êtes redevable. Et vous devez, vous avez compris que, bon, a priori, il valait mieux être avec lui que contre lui, et que vous devez l'adorer, vous devez être en bon rapport avec lui, et que donc, voilà, vous devez faire ce qu'il vous dit. Et ça tombe bien parce qu'il vous dit quoi faire. Donc, on va lire Lévitique 1. Et ce qui est bien, c'est que, ouais, par rapport au passage d'hier, il y a une sacrée cure d'amaigrissement qui a été effectuée. Donc à partir du verset 1, le Seigneur appela Moïse depuis la tente de la rencontre, donc c'est-à-dire depuis le tabernacle qu'on a vu hier en photo. Il lui dit, parle aux Israélites, tu leur diras, lorsque l'un de vous offre une bête en présent au Seigneur, vous offrirez un présent pris sur le gros bétail et sur le petit bétail. Si son présent est un holocauste pris sur le gros bétail, il présentera un mâle sans défaut. Il le présentera à l'entrée de la tente de la rencontre pour qu'il soit agréé devant le Seigneur. Il posera la main sur la tête de l'holocauste et celui-ci sera agréé pour faire l'expiation sur lui. Il immolera le bovin devant le Seigneur. Les fils d'Aaron, les prêtres, présenteront le sang et aspergeront de sang le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Les fils d'Aaron, le prêtre, mettront du feu sur l'autel et disposeront du bois sur le feu. Les fils d'Aaron, les prêtres, disposeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois, sur le feu de l'autel. Il lavera avec de l'eau, les entrailles et les pattes, et le prêtre fera fumer le tout sur l'autel. C'est un holocauste, une offrande consumée par le feu, une odeur agréable pour le Seigneur. Si son présent est un holocauste pris sur le petit bétail, sur les moutons ou sur les chèvres, il présentera un mâle sans défaut, il l'immolera à côté de l'autel, au nord, devant le Seigneur. Les fils d'Aaron, les prêtres, aspergeront de son sang le pourtour de l'autel. Il le coupera en morceaux avec la tête et la graisse, et le prêtre disposera les morceaux sur le bois, sur le feu de l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les pattes. Le prêtre présentera le tout et le fera fumer sur l'autel. C'est un holocauste, une offrande consumée par le feu, une odeur agréable pour le Seigneur. Si le présent qu'il offre au Seigneur est un holocauste d'oiseau, il présentera des tourterelles ou des colombes. Le prêtre présentera l'oiseau sur l'autel et il lui tordra le cou. Il fera fumer la tête sur l'autel et il fera couler le sang contre la paroi de l'autel. Il détachera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel, vers l'est, dans le lieu où on met les cendres grasses. Il le fendra entre les ailes, sans en séparer les moitiés, et le prêtre le fera fumer sur l'autel, sur le feu de bois. C'est un holocauste, une offrande consumée par le feu, une odeur agréable pour le Seigneur. Bon appétit, si vous êtes à table. Ouais.
Médaille. Voilà. Médaille. Faut qu'on fasse la bise, parce que tu viens de me mettre la médaille d'argent. Hein.
Merci. Donc, voilà, bah, vous avez... On va étudier ce premier chapitre du Lévitique parce que je pense que là c'est le chapitre sur les holocaustes. Hein. Vous avez vu que le mot holocauste est beaucoup répété. Holocauste, ça veut dire offrande consumée totalement par le feu. Et ce premier chapitre pourrait être un chapitre qui illustre bien en fait comment se font les sacrifices. Il y a d'autres sacrifices qui se font derrière et on va voir en détail ce que ça comporte. Mais déjà on va déjà décortiquer ce passage-là parce qu'il nous dit déjà pas mal de choses. Pour commencer, je pense qu'il faut dire que le sang est un élément central du sacrifice. Et vous l'avez sûrement compris, le sang, c'est important. Pourquoi est-ce que le sang, c'est important pour les sacrifices ? Parce que le sang est le siège de la vie. Voilà, c'est expliqué au chapitre 17, verset 11. Dieu le dit lui-même, voilà, le sang est le siège de la vie. Et puisqu'il est le siège de la vie, l'écoulement du sang conduit à la mort. Et donc le sang, c'est le meilleur vecteur pour représenter la vie. Que la vie est là, ou que la vie n'est plus là, en l'occurrence. Et ça se voit d'autant plus que le sang, c'est la vie, que quand on amène une bête, qu'on la sacrifie, enfin qu'on l'égorge, en l'occurrence. Vous avez peut-être jamais vu une bête qui venait se faire égorger, si une personne, quelques personnes, c'est cool. Ah ouais, bien, ouais, voilà, ouais. Donc il y en a plusieurs qui savent ce que ça fait. En fait, bah, vous voyez sa vie partir. Vous voyez sa vie partir. Au départ, elle se débat, après elle comprend ce qui se passe, et très vite, en fait, elle se débat plus. Parce que le sang, c'est cool, parce qu'en fait, ouais, quand on égorge, quand même, ça coule assez vite, parce qu'il y a des artères qui passent. Bon appétit toujours, si vous êtes à table. Mais on comprend tout de suite que le sang, c'est le siège de la vie, parce que quand il s'écoule, on voit la bête qui meurt petit à petit. J'hésitais, en fait, à vous mettre une vidéo... D'un agneau égorgé pour l'Aïd, parce que bien sûr les vidéos sont plutôt musulmanes pour le coup. Puis en fait, ouais, moi-même en fait j'étais un peu choqué. Donc, pour ça j'ai déjà vu ça, hein, mais là ouais, ça fait c'est un peu trash. Ouais. Et puis dès le matin, bon, peut-être que bon, vous auriez vomi votre 4 heures, tout ça, ou votre 8 heures en l'occurrence. Donc, mais en tout cas, voilà, le sang, c'est le siège de la vie, et c'est pour ça que le faire écouler, ça représente en fait la vie entière. C'est ce qu'on appelle, je crois, une synecdoque. C'est le sang représente l'être entier, représente la vie entière. Donc, voilà, c'est une figure de style. En tout cas, une fois qu'on a dit tout ça, nous allons voir l'acte sacrificiel en lui-même, tel qu'on le voit dans chapitre 1. Cet acte sacrificiel se fait en 6 étapes. Ces 6 étapes n'apparaîtront pas, donc je vous invite à les marquer. Et vous pouvez aussi les suivre dans votre Bible. La première étape est située au verset 3. L'adorateur amène son offrande dans la cour centrale du tabernacle, où se trouve l'autel. Je vous ai pas remis le schéma d'ailleurs, mais vous savez, ah peut-être que si en fait, on ne sait jamais. Ah, voici l'autel, déjà. L'autel des holocaustes. Donc vous voyez, il y a un grillage parce qu'il y a du feu en dessous. Hein. Donc voilà, parce qu'il faut bien, mettre les animaux dessus, hein, et puis le feu dessous, comme ça crame. Voilà. Et puis j'ai même une illustration qui est à peu près visible cette fois-ci. Vous voyez, il y a les prêtres qui sont là. Il y a les animaux qui sont égorgés, qui sont sur le côté, là. Il y a le sang qui est dans leur petite coupelle. Il y a les cornes de l'autel. Il y a un prêtre là à gauche qui tient une corne, donc qui met du sang sur la corne de l'autel. Et puis le reste est brûlé en holocauste. Voilà. on voyait, c'est en image. Hein. Donc l'adorateur, dans première étape, amène son offrande, donc son animal, dans la cour centrale du tabernacle. Deuxième étape, verset 4. L'adorateur pose ses mains, ou sa main, sur la victime. Il pose sa main. Et ça a une signification, le fait de poser sa main sur la victime. Ça a même trois significations. Ça signifie que l'animal devient son substitut. L'animal le remplace. Donc, c'est-à-dire que l'animal qui va être égorgé le représente lui. Lui, il aurait dû être égorgé à la place de l'animal. La deuxième signification possible pour l'imposition des mains sur l'animal, c'est que l'adorateur transfère ses péchés sur l'animal. Donc il lui file ses péchés. Et la troisième chose aussi, ça peut vouloir dire que l'adorateur se consacrait à Dieu grâce à la victime. C'est-à-dire qu'il était reconnaissant envers Dieu en lui offrant cette victime-là. Et donc, en fait, voilà, il lui filait sa gratitude, si on veut. Voilà. Donc il y a trois significations possibles. Alors ça, c'est selon les sacrifices. Hein. C'est pas que selon le chapitre 1, mais là, je vous fais le pack entier, parce que on va traiter des sacrifices plus spécifiquement aujourd'hui. Après, on va en reparler, mais un peu moins. Donc j'essaie d'être le plus exhaustif possible. Troisième étape. L'adorateur tue l'animal. C'est au verset 5. Il tue l'animal en signe de juste peine pour ses péchés. Hier, l'équipe des sacrificateurs au jeu se trompait un petit peu parce que, en fait, le sacrificateur ne tue pas souvent des animaux, finalement. Parce que le sacrificateur, les prêtres, en fait, interviennent aux étapes d'après. C'est eux qui s'occupent du sang de la victime. Le sacrificateur, bien sûr, sacrifie quand même quelques animaux quand c'est pour le peuple ou pour lui-même. Ça, donc, le sacrificateur, c'est quand même manier du couteau. Hein. Faut quand même lui rendre ça. Mais normalement, c'est l'adorateur lui-même qui tue l'animal. Donc, vous voyez, hein, il transfère ses péchés sur l'animal. Il dit plus ou moins, voilà, cet animal, c'est moi. Et lui-même, avec le couteau, dit, voici ce que je mérite. Et youpla boum, il lui tranche joyeusement la jugulaire. Je sais pas si ça s'appelle la jugulaire, mais enfin, on s'en fout. Chez les animaux. Et... La carotide, n'importe quoi. La carotide. Ensuite, étape 4, le prêtre intervient, donc là cette fois-ci. Il récolte le sang dans un récipient et il en asperge l'autel. Alors, il asperge les coins nord-est et sud-est, comme ça. Et du coup, en aspergeant comme ça, c'est à peu près tout l'autel hein, qui est éclaboussé. Donc voilà, il faut bien commencer par quelque part. Étape 5. Là, pour le coup, on est au chapitre 6, verset 9. Alors, on l'a pas tout de suite. On a une partie. Les prêtres brûlent quelques parties du corps. Là, pour le coup, on l'a au chapitre 1. Ça. Les prêtres brûlent quelques parties du corps de la victime. Le sang et la graisse des reins, du foie et des intestins. Voilà. Le sang en entier, et plus la graisse des reins, du foie et des intestins. Et ça, parce que ces parties-là étaient réservées à Dieu. Voilà. Donc ça, c'est à Dieu. Donc ça, tout ce qui brûle, en fait, c'est ce qui est réservé à Dieu. Hein. Et enfin, la dernière étape. Là, je pense qu'on l'a pas ici. Ça, c'est au chapitre 7. Les prêtres. Alors, il y a plusieurs options. En tout cas, à la fin, il y a un repas sacrificiel. Il y a un repas avec les restes de la victime qui n'a pas été brûlée pour l'éternel. Hein, voilà. Et qui n'est pas impur et tout ça. Le reste est mangé en repas sacrificiel. Soit par les prêtres tout seuls, soit par les prêtres et leur famille, soit par les prêtres, leur famille et l'adorateur et sa famille. Voilà, selon le sacrifice. Voilà. Voici les 6 étapes du sacrifice. Mais maintenant, il faut nous pencher vers quelque chose de très intéressant et il va falloir que vous alliez à la page 12 pour voir le tableau que je vous ai fait, pour voir les différents types de sacrifices du Lévitique. Vous voyez, quand vous avez vu les 6 étapes, ça explique un peu, ça vous allez un peu mieux comprendre. Les sacrifices, il y a 5 types de sacrifices, comme vous le voyez. Ça dépend des occasions, ça dépend de ce qu'on veut faire. pour Dieu. Donc on va choisir le sacrifice selon ce qu'on veut faire pour Dieu. Et ça suit un principe, c'est que le sacrifice, c'est Dieu qui dit comment il doit se faire, et toujours le meilleur est pour Dieu. Voilà. Le meilleur du sacrifice est pour Dieu. Donc le premier sacrifice, c'est ce qu'on appelle l'Holocauste, on vient de le voir. C'est au chapitre 1 et au chapitre 6. Parce qu'en fait, voilà, vous avez la série des sacrifices pendant quelques chapitres, et après vous avez un rappel des sacrifices spécifiquement pour les prêtres, ce que les prêtres doivent faire et ce qui va leur arriver, tout ça. Donc c'est pour ça que ça dure un peu plus longtemps. C'est pour ça qu'on a des précisions grâce aux instructions pour les prêtres. Donc l'Holocauste est l'occasion, c'est de rendre hommage à Dieu, de lui être reconnaissant, et aussi d'expier. Je vais expliquer les mots un peu barbares comme expier tout à l'heure. L'offrande, c'est un mâle sans défaut, parmi le gros et le petit bétail, ou un oiseau, qui appartiennent tous à l'adorateur. Il faut que la victime coûte quelque chose à l'adorateur, bien sûr. Hein. Ça lui appartient, hein. C'est pas un truc qui est pris quelque part et puis ça lui coûte rien. Non, c'est quelque chose qui fait partie de son propre cheptel. Et bien sûr, c'est un mâle sans défaut. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est la bête la plus chère de son cheptel. Parce qu'un mâle, il peut reproduire, donc déjà, il vaut un peu plus. Et en plus, il est sans défaut, donc il pourrait le revendre vachement beaucoup. Revendre vachement beaucoup, c'est très bien, ça. Il pourrait le vendre cher, et il le fait pas, il le sacrifie à la place. Donc quand même, ça coûte quelque chose. Et le devenir de l'Holocauste, bah bien sûr, vu que c'est un Holocauste, tout est brûlé. Et il nous est dit, l'odeur apaise l'Éternel. Le deuxième sacrifice, c'est une offrande de nourriture ou une oblation. Ça, c'est au chapitre 2. On nous parle de ça. L'occasion, bah, c'est fait pour provoquer la propitiation, c'est-à-dire s'assurer la bienveillance de Dieu, ou conserver la bienveillance de Dieu, ou apaiser la colère de Dieu. Et cette offrande de nourriture, c'est l'offrande des fruits de la terre cultivée, c'est-à-dire des céréales, de l'huile, du vin, ça peut être aussi du sel, de l'encens, surtout pas de levain, surtout pas de levain. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être parce que le levain, ça accélère la putréfaction des aliments, on ne sait pas trop. Et peut-être qu'il faut mettre du sel justement parce que le sel ralentit la putréfaction des aliments. Et le devenir de l'offrande de nourriture, d'abord, une part est brûlée pour Dieu en mémorial, et ensuite, il y a une part qui est pour les prêtres, à manger dans le lieu saint. Troisième sacrifice, sacrifice de communion, ou sacrifice de grâce, ou sacrifice de prospérité, ou sacrifice de paix. Donc ces sacrifices ont plusieurs noms, ce qui peut être un peu désappointant quand nous lisons le Lévitique. Une sœur qui est ici présente, une fois m'a téléphoné pour me dire « Mais au fait, c'est quoi la différence entre tout ça ?» Et voilà, et j'ai eu du mal à lui répondre parce que j'avais pas encore bien étudié la question. L'occasion pour ce sacrifice de communion ou de paix, c'est un sacrifice volontaire, en signe de reconnaissance, de réjouissance, réjouissance d'être pardonné, ou de témoignage d'amour pour Dieu. Et l'offrande, c'est un bélier sans défaut, un mâle ou une femelle. Et le devenir, d'abord la graisse est brûlée pour Dieu, et le reste fait l'objet d'un festin sacrificiel entre les prêtres et l'adorateur avec sa famille. Bien sûr, les prêtres ont des parties réservées aussi sur l'animal. Ensuite, nous avons les deux derniers sacrifices qui sont un peu particuliers, c'est pour ça que je les ai grisés. Ils sont grisés dans votre schéma. Donc le sacrifice pour le péché ou le sacrifice d'expiation. Donc l'occasion, c'est le pardon des péchés et le pardon d'un péché involontaire, c'est-à-dire sans préméditation contre Dieu. L'occasion, c'est bien sûr de confesser ses péchés sur l'animal. C'est-à-dire que voilà, on impose les mains et on confesse ses péchés. Et l'offrande est différente selon le degré de l'adorateur. Vous voyez, plus on est élevé dans la hiérarchie, c'est-à-dire le plus élevé, c'est le sacrificateur, c'est un bœuf, donc c'est ce qui coûte le plus cher. Pour un prince, c'est un bouc, donc le mâle de la chèvre. Hein, pour être, voilà. Et pour quelqu'un du peuple, c'est une chèvre. Et pour un pauvre, c'est une chèvre ou une brebis. Hein, la brebis est la femelle du mouton. Ou le bélier, hein. Le bélier c'est un mouton, c'est pareil. Parce que moi j'étais obligé de chercher hein, pour être sûr. Et pour un pauvre, ce sont deux oiseaux purs. Et pour quelqu'un qui n'a vraiment rien, c'est une oblation de produits de la terre. Si quelqu'un qui n'a même pas les moyens d'offrir une tourterelle, il peut offrir du blé ou des choses comme ça. Vous voyez quelque chose qui est étalé selon les richesses des personnes. Et le devenir de ce sacrifice, c'est la graisse est brûlée pour Dieu, le reste est pour les prêtres. Et enfin, le sacrifice de culpabilité, ou sacrifice de réparation. Le but, c'est d'expier aussi un péché qui porte atteinte à la propriété de Dieu. C'est-à-dire les dîmes, les offrandes, ou qui porte atteinte à la propriété de son prochain. Si on lui a volé un truc, par exemple. Hein. Et l'offrande, c'est un bélier. Plus une compensation monétaire d'un cinquième, en plus de la valeur de ce qu'on a volé. Donc on rend ce qu'on a volé, un cinquième en plus, et en plus un bélier. Voilà. Qui, je le rappelle, est le mâle chez les moutons. La graisse est brûlée pour Dieu, le reste est pour les prêtres. Voilà. Quelle est la différence entre les trois premiers sacrifices et les deux derniers? Est-ce que vous avez vu une différence entre les deux? Voilà. Les trois premiers sont volontaires, et les deux derniers ne le sont pas. Sont expiatoires. Les trois premiers sacrifices déjà décrivent l'effet du sacrifice sur Dieu. Je pense que j'ai dû mettre. Ouais, voilà. Voilà. C'est-à-dire que après les trois premiers sacrifices, on a la phrase ce sera une odeur agréable pour l'Éternel. Donc l'effet est sur Dieu pour les trois premiers sacrifices. Alors que pour les deux derniers sacrifices, on nous décrit l'effet sur le croyant. Après les deux derniers sacrifices, on nous dit « Il lui sera pardonné. » Donc, c'est pas pareil du tout. Les trois premiers sacrifices n'ont pas besoin d'occasion particulière. C'est aussi ça la différence. C'est un acte volontaire, un acte spontané, un acte de reconnaissance. Alors que les deux derniers sont faits pour des occasions spécifiques. C'est-à-dire le péché par inadvertance, le péché par omission. Holocauste, ça peut être aussi expiation. Ouais. Mais on va voir tout à l'heure que entre propitiation et expiation, les différences sont un peu difficiles à établir parfois. Voilà, c'est ça un gros problème, c'est que les deux mots, c'est un peu chaud au niveau des articles qui sont écrits là-dessus. Et pour les deux premiers sacrifices sanglants, hors de l'offrande, l'holocauste et la communion, en l'occurrence, les prêtres aspergent l'autel qui se trouve à l'entrée du tabernacle. Pour qui que ce soit. Voilà. Pour les deux derniers, le sang est apporté dans la tente de la rencontre, c'est-à-dire dans le lieu saint, et l'aspersion se fait devant le Seigneur, en face du voile du sanctuaire, qui sépare le lieu saint du Dieu très saint. Et en plus, ce n'est pas le même animal selon la personne. C'est-à-dire que voilà, pour le prêtre, c'est un taureau, pour le prince, c'est un bouc, et pour le peuple, c'est une chèvre ou une brebis. Donc en plus, il y a ça. Si c'est étalé au niveau des sacrifices selon la richesse de l'adorateur, et si même en fait les personnes qui n'ont rien peuvent apporter quelque chose, c'est parce que les deux derniers sacrifices, il vaut mieux les faire, sinon on n'est pas pardonné par Dieu. Donc même quelqu'un qui n'a rien doit pouvoir apporter quelque chose pour être pardonné par Dieu. Il faut quand même donner la possibilité à tout le monde d'être pardonné par Dieu. C'est bien ça le but de la chose. Alors une fois qu'on a vu les différents sacrifices, il faut dire quand même que les sacrifices, même si ça peut nous paraître un peu barbare maintenant et tout ça, je pense qu'on peut vraiment dire que les sacrifices, même à cette époque-là, sont le fruit de la grâce. Vraiment, il faut lire « Dieu est-il cohérent hein, » dans la collection question suivante, hein, où Émile Nicole nous montre en fait qu'il y a déjà beaucoup de grâce dans l'Ancien Testament. Et il y a encore beaucoup de lois dans le Nouveau, en l'occurrence. C'est un fruit de la grâce parce que Dieu donne lui-même la solution pour ne pas encourir sa colère. Et c'est quand même un peu bizarre, parce que c'est pas souvent qu'un offensé propose lui-même à son offenseur les moyens de se réconcilier. Quand vous êtes offensé, vous attendez à ce que ce soit votre offenseur qui vous dise « Je suis désolé, vraiment, je reconnais ma faute et je vais faire en sorte de réparer les choses ». Là, non. Là, c'est comme si vous étiez offensé et que vous allez voir votre offenseur, qui sait d'ailleurs pas forcément que vous l'avez offensé, et vous lui dites « Bon, tu m'as offensé, T'inquiète pas, c'est pas grave. Si tu me demandes pardon, hein, je t'attends, tu peux me demander pardon. Et si tu me demandes pardon, apporte juste ce cadeau-là. Ça me fera plaisir, on n'en parle plus. D'accord ? Voilà. Hein. Bon, d'accord, t'as tué ma mère, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que si, il faut que ce soit quand même une grosse offense, hein, parce que l'offense envers Dieu, enfin, on verra ça tout à l'heure, enfin, demain, avec la notion de sainteté, la notion de pureté, c'est pas genre, oh là là, je t'ai marché sur le pied, désolé, quoi. Hein. C'est quand on offense Dieu, c'est juste que on mérite juste d'être pulvérisé, quoi. Hein, voilà. C'est juste qu'en fait, il est pas tellement pareil que nous, hein, et qu'on est juste une odeur très nauséabonde pour lui, quoi. Hein, tellement le péché est nauséabond. Mais heureusement que sa grâce abonde quand le péché est nauséabond. C'est super drôle. Je fabrique des blagues en direct, vous avez vu ? Aussi, il faut aussi dire, avant de rentrer dans le sacrifice, dans la notion de sacrifice, il faut dire que les rites ne sont pas magiques et obscurs. Dieu explique ce qu'il fait. Ça, c'est super important. Donc la première chose qui est bizarre, c'est que c'est l'offensé qui propose à son offenseur la paix. Mais là aussi, il y a aussi l'offensé qui explique aussi le moyen pédagogique du sacrifice à son offenseur. Il y a une pédagogie très claire pour que le pécheur, l'adorateur, comprenne très bien ce qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça qu'il y a ces 6 étapes qui sont tellement importantes. Mais en tout cas, il faut quand même commencer à dire que le concept de sacrifice n'est pas tout neuf. Qu'on a déjà des sacrifices avant l'Exode. Avant la loi qui est donnée dans l'Exode, dans le Lévitique, dans le Nombre et dans le Deutéronome. Déjà dans Genèse 4, si vous vous rappelez, Cain et Abel offrent un sacrifice. Et d'ailleurs, il y en a un qui est agréé et pas l'autre, et du coup, ça a donné lieu au premier meurtre. Aussi, si vous vous rappelez, Noé, Quand la terre est devenue sèche, il prend des animaux qui sont dans l'arche et bang, il les offre en sacrifice pour l'Éternel. Et d'ailleurs, voilà, personne ne lui a demandé de le faire, on ne sait pas pourquoi il le fait, mais il le fait. Et d'ailleurs, ce qui est marqué d'ailleurs dans Genèse 8, ça, hein, Genèse 8, 20, et d'ailleurs, on nous dit qu'il a sacrifié des bêtes pures. Alors que la notion de pureté et d'impureté était totalement, normalement inconnue à l'époque. Parce que la loi est venue plus tard. Et enfin, un autre sacrifice, bon, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a bien sûr, par exemple, le sacrifice d'alliance avec Abraham. D'ailleurs, le mot berit, qui signifie alliance, dont je vous ai parlé hier, ça veut dire couper. Faire alliance, c'est couper, parce que c'est couper. Par exemple, vous preniez un bœuf, entre donc les deux parties contractantes, vous preniez un animal, vous le coupiez en deux, vous mettiez les deux parties de l'animal de chaque côté, et les deux parties qui contractaient l'alliance passaient entre les deux parties de l'animal, pour signifier que si nous désobéissons à notre alliance, si nous rompons l'alliance, qu'il nous arrive ce qui est arrivé à l'animal. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé entre Abraham et Dieu. Pour faire alliance avec Abraham, Dieu lui a dit, c'était un taureau, je crois, ou une génisse, je ne sais plus. Il a coupé ça en deux. Il l'a coupé en deux. Abraham est passé entre les deux parties de l'animal et l'Éternel est passé entre les deux parties de l'animal. Donc on a déjà encore dans Genèse 15, merci. C'est encore un sacrifice avec Abraham. Et bon, bien sûr, dans l'Exode 12, hein, il y a quelque chose quand même qui est pas tout neuf, mais qui est quand même super récent pour les Hébreux. Hein. Genèse 12, lors de la Pâque. C'est que Dieu qui est passé ? Pas Abraham ? Ha ! Dieu est passé, oui, non, Dieu est passé, oui, oui. Abraham n'est pas passé ? Ha ! Johan, pas bien. Mauvais souvenir. Et au niveau de la Pâque, donc, l'agneau pascal, bien sûr, les Hébreux ont quand même égorgé un agneau qui a remplacé leur fils premier-né. Ils ont aspergé de sang les linteaux de leur porte, et du coup, la dixième plaie d'Égypte n'a pas fait périr leur enfant. Donc, le sacrifice est présent dès le début de l'Exode. Donc, en gros, c'est un concept qui existe déjà. En tout cas, le but des sacrifices, c'est l'expiation et la propitiation. Et du coup, il va nous falloir expliquer ces deux choses de manière courte, d'ailleurs, et schématique, parce que c'est compliqué. Expiation, ça signifie servir de rançon par la proposition d'un substitut. Voilà. Vous avez péché. Hein, vous avez un problème, vous avez péché, et du coup, vous envoyez quelqu'un se faire tuer à votre place. Voilà, si vous voulez Et du coup, ça a un caractère légal, hein, ça a un caractère légal pour satisfaire à votre désobéissance. Voilà. Quelqu'un prend la peine à votre place. C'est légal. Vous encourez une peine, vous envoyez quelqu'un à votre place. Et d'ailleurs, l'effet est sur l'homme. L'homme est pardonné, hein. L'homme est pardonné au niveau de l'expiation, hein. La peine qu'il méritait, ça y est, elle est passée sur quelqu'un d'autre. Du coup, il est plus blanc que la neige. Ça, c'est pour le verbe expier. Là, par contre, la propitiation, ça veut dire rendre propice, rendre Dieu propice, le rendre favorable, apaiser sa colère, si vous préférez. D'où les expressions, voilà, la bonne odeur qui apaise l'Éternel. Le péché, ça sent mauvais pour Dieu, donc il faut, et ça le rend vraiment de mauvaise humeur. Et du coup, il faut apaiser sa colère, et la propitiation est faite pour qu'il soit content, si vous voulez. Et donc là, du coup, l'effet est sur Dieu. L'effet est sur Dieu au niveau de la propitiation. Comment ? Bah, en fait, il y a des sacrifices où en fait, il y a la propitiation et l'expiation qui sont faites en même temps. C'est ce qui vient compliquer la chose. Et que des fois, en fait, les mots recouvrent la signification de l'autre. Un mot recouvre la signification de l'autre et vice-versa. Du coup, c'est un peu chaud. Voilà. Au niveau de... J'ai lu pas mal d'articles là-dessus. Et en fait, l'avantage de lire ces articles, c'est que on n'en sait pas plus à la fin. Enfin, on sait à peu près ce que ça veut dire, mais on voit que les Hébreux eux-mêmes, en fait, des fois, utilisaient un vocabulaire interchangeable. Donc, c'est un peu difficile, des fois. Mais en gros, quand on connaît un peu les deux concepts, on voit à peu près quand un sacrifice est propitiatoire et quand il est expiatoire. En tout cas, le but de la substitution, je ne sais pas si j'ai marqué ça, le but du sacrifice en général, d'ailleurs, et donc surtout le but de la substitution, c'est-à-dire le but de l'expiation, c'est un, de montrer que le péché, c'est très grave pour Dieu. Le péché, ça fait mériter la mort. Voilà. Pas une petite claque, voilà. Non. Mériter la mort. C'est le premier but. Le second but de la substitution, c'est de se rendre compte de sa faute. C'est de se rendre compte de ce que l'on mériterait si Dieu ne décidait pas de nous faire grâce en acceptant un animal à notre place. Le fait que Dieu accepte un substitut, c'est la grâce. Et du coup, ça provoque la repentance, la reconnaissance. C'est le troisième but du sacrifice. La reconnaissance et la repentance. Et surtout, le principal avantage des sacrifices, c'est en quatre, c'est d'être réconcilié avec Dieu, bien sûr. Légalement, on est réconcilié avec Dieu. Donc ce sont les sacrifices en général, mais il y a aussi dans le Lévitique deux sacrifices particuliers. Et dans Lévitique 14, dans Lévitique 16. Là, il n'y a rien de particulier dans votre livret, mais je vais vous raconter un petit peu. Normalement, si vous regardez dans votre petit plan, hein, qui est dans les pages précédentes, le plan du Lévitique, vous verrez que Lévitique 14 vous parle d'un lépreux. Et donc là, en l'occurrence, je parle de la purification et de la reconsécration d'un lépreux qui est guéri. Et Lévitique 16, ça vous parle du grand jour des expiations, le jour du grand pardon, le Yom Kippour, qui est là, qui est un jour très très spécial dans le calendrier des fêtes juives. Donc on va commencer par Lévitique 14. Hein. Dans Lévitique 14, la reconsécration d'un lépreux, le lépreux amène deux oiseaux, deux tourterelles ou deux colombes. Et il les apporte au sacrificateur. Le sacrificateur immole la première colombe. Il met son sang dans un récipient où il y a déjà de l'eau dedans, de l'eau vive. Voilà, il fait une petite mixture, hein, et il met des glaçons, il met de shaker, il met ça dans un verre à cocktail. Non, c'est pas vrai. Vous ne dites rien, en fait, vous ne m'écoutez pas. C'était pour vérifier. Hein. Donc il met ça dans un grand bol, donc avec donc de l'eau et le sang de la première tourterelle. Il prend la deuxième tourterelle, il la trempe dans le sang de la première et il la relâche. Pardon. Il la trempe dans le récipient. Il prend une branche d'un arbre qui s'appelle l'hysope. Il en asperge le lépreux qui est guéri. Donc lui, il se mange le sang et l'eau, tout ça, voilà. Et après, il lâche la deuxième tourterelle qui est pleine de sang et d'eau, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est un sacrifice un peu particulier parce que on a un mort, mais on a deux survivants, si on... enfin le l'adorateur forcément, on a une tourterelle qui peut s'en aller dans la nature. Intéressant. C'est la reconsécration du lépreux. Donc le lépreux, en gros, si vous voulez une explication rapide, il est la première tourterelle normalement. Donc il mérite la mort, et son état de lèpre en fait signifie un peu un côté mort avancé, vous voyez, hein, mort des avances un peu sur la mort. La lèpre, c'est pas très joli, on verra des photos demain. Ça va être sympa, vous allez voir. Et donc il mérite ça, et du coup il est guéri, hein, il est guéri. Donc le sacrificateur l'asperge de sang, ça signifie vraiment voilà, tu méritais ça quoi, je t'asperge. Et après il lâche la deuxième tourterelle qui est trempée dans ce sang là pour signifier que voilà, tes péchés, voilà, c'est terminé, quoi. Tes péchés sont partis. Avec la deuxième tourterelle. Maintenant, tu es la deuxième tourterelle. Pas mal, la signification, non? Voilà. Donc, y en a une qui survit, là. C'est un sacrifice un peu particulier. Le second sacrifice particulier, c'est dans Lévitique 16. C'est pour le grand jour des expiations. C'est un jour, c'est vraiment le summum des fêtes juives, où c'est la seule fois dans l'année où le grand prêtre va dans le lieu très saint, devant le coffre de l'Éternel. Et pour en asperger, pour en asperger le sang, on va dire, avec le sang d'un taureau, au nom de toute la communauté. Et en fait, là encore, il y a un truc qui se passe, qui est un peu comme les Hébreux. Le peuple donne deux béliers, enfin deux boucs, au sacrificateur. Donc, le peuple donne deux boucs au sacrificateur. Le sacrificateur en immole un. Et en gros, il tire au sort. Voilà, pardon, je grille les étapes. Il tire au sort. Il y en a un qui est destiné à être immolé et l'autre qui est destiné à être relâché dans le désert. Donc il en immole un. Et après, il en relâche un. Et en fait, donc c'est dans Lévitique 16, hein, et c'est au verset 8. Il y en a un qui est pour le Seigneur et l'autre qui est pour Azazel. Azazel. On ne sait pas trop qui est Azazel, mais peut-être un esprit diabolique dans le désert ou un truc comme ça. On ne sait pas trop. Mais en gros, ça signifie quand même que voilà, le peuple est pardonné, parce que le deuxième taureau, là, c'est les péchés qui s'en vont au loin, dans le désert. Donc là encore, c'est un sacrifice particulier où tout le monde n'est pas mort. Il y a une des bêtes qui est destinée à être relâchée. Donc ça, encore, le symbolisme est aussi assez fort. Ouais. Oui, il meurt dans le désert. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais en fait, il ne le voit pas, ce que je veux dire, en fait. Voilà. Oui. Forcément, vu qu'il est dans le désert, le deuxième bouc, il n'a pas forcément tout le temps de quoi manger. Et... Ouais. Puis il y a des bêtes aussi dans le désert, donc oui. Oui, merci. Bien sûr, on peut faire un pas de plus en disant qu'il y a un problème avec les sacrifices. C'est que l'adorateur peut croire que c'est un rite magique, un acte magique, alors que c'est la repentance qui compte. C'est l'attitude du cœur qui compte. Et les prophètes, dans la suite, vont rappeler au peuple que c'est pas parce qu'ils font les sacrifices qu'ils ont le droit de coucher avec des prostituées, d'avoir des idoles dans leur maison, et de même mettre des idoles à l'intérieur du temple, tout ça. Non, c'est pas parce qu'ils font leurs sacrifices réglementaires envers l'Éternel qu'ils sont pardonnés. L'Éternel cherche une attitude de cœur avec le sacrifice. Mais les Hébreux, les Israélites ont parfois cru, et souvent cru, que c'était un acte magique. Aussi, un autre problème avec le sacrifice, c'est qu'on peut croire que juste parce qu'on a bien accompli la loi, on est sauvé, grâce à nos bonnes œuvres. On peut croire que voilà, on est quelqu'un de bien, du coup, parce qu'on fait ce qu'il faut. Et que du coup, on est sauvé parce qu'on... En fait, en gros, Dieu nous doit nous sauver, hein, nous méritons le salut, parce qu'on a bien obéi à Dieu, parce qu'on a bien tout appliqué. Et voilà, ce serait croire qu'en fait, Dieu nous sauve par grâce, d'abord, et que de toute façon, on n'arrive pas à obéir totalement à la loi, mais que déjà, rien que le fait que Dieu donne les sacrifices, c'est qu'il nous fait grâce. Parce qu'en fait, il pourrait nous pulvériser tout de suite. Enfin, il pourrait les pulvériser tout de suite parce qu'on ne fait pas vraiment de sacrifices. Et donc, ça a été le problème des pharisiens. Ça a été le problème, par exemple, de certains chrétiens dans l'église de Galatie. Aussi, le dernier problème avec les sacrifices, c'est qu'il faut les renouveler. Il faut les renouveler sans cesse. Parce qu'en fait, il ne change rien au cœur du pécheur. Donc du coup, c'est un éternel recommencement. Et ça, c'est problématique. Bien sûr, on va aborder un truc assez facile, et je pense que vous avez tout de suite perçu l'analogie. Hein. Jésus opère une sorte de cumul des mandats au niveau de l'analogie, parce qu'il est la victime expiatoire, il est le bouc émissaire, donc le bouc qui est relâché, qui est sacrifié. Il est un sacrifice parfait, il est un sacrifice perpétuel. Donc, Jésus, c'est aussi l'agneau pascal, l'offrande pour le péché. Voilà, tous les sacrifices sont accomplis en Jésus. Hein, c'est assez intéressant. C'est pour ça que Jésus vraiment satisfait à toutes les contraintes de la loi. Hein. Et c'est ce qui est beaucoup dit dans l'Épître aux Hébreux. Hein. Chapitre 9, chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, Hébreux 10, verset 12. Lui, c'est-à-dire Jésus, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour rester à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis lui soient donnés pour marchepied. Par une seule offrande, en effet, il a porté à leur accomplissement à perpétuité ceux qui sont consacrés. Par une seule offrande à perpétuité. Plus besoin de renouveler les sacrifices. Jésus apaise la colère de Dieu, pardonne les péchés, une fois pour toutes, pour ceux qui croient en lui. C'est de ça la bonne nouvelle, quand même. C'est quand même vachement bien quand on a vu tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Donc, vous voyez, son sang nous purifie, tout ça, c'est pas une formule magique. Hein, voilà. Le sang de l'agneau qui purifie nos péchés et toutes nos iniquités, tout ça. L'expiation, c'est pas des mots creux comme ça, ça a un vrai sens dans la Bible. Alors, je vous conseille pas de les dire à des personnes qui connaissent pas la Bible, hein, bien sûr, parce que en gros, voilà, le sang de l'agneau, tout ça, les personnes ont un petit peu de mal. Déjà, nous, on a un peu de mal. Alors, les personnes qui connaissent pas la Bible ont encore plus de mal que nous. Mais voilà, ça veut vraiment dire quelque chose, le sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie. C'est quelque chose qui a du sens. Et du coup, le sacrifice de Jésus nous accorde la communion avec le Père en prenant sur lui tous nos péchés. La communion, sacrifice de communion, sacrifice pour le péché. Tout ça, Jésus l'accomplit. Alors, vous voyez, il satisfait à toutes les exigences de la loi, n'empêche qu'il est mort sur une croix. Il n'est pas mort sur l'autel. Il y avait un autel à Jérusalem. Hein. Il est pas son sang, il a coulé en bas de la croix. Son sang, il n'a pas été aspergé sur les cornes de l'autel, il n'a pas été aspergé sur le rideau, sur le voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint. Jésus satisfait les exigences de la loi, mais il y a quand même quelque chose qui est interprété de manière spirituelle, parce que il n'est pas allé, tout s'est pas fait dans le temple, s'il n'a pas été la vraie victime, c'est pas un vrai agneau, vous voyez. Donc il y a une interprétation aussi spirituelle quand même à faire, ce qui est voilà. Mais n'empêche qu'on sait que par sa résurrection, son sacrifice a été accepté par Dieu. Et ça, c'est génial. Parce que s'il n'était pas ressuscité, on n'aurait pas trop su, quoi. Alors on est pardonné, on n'est pas pardonné, on continue les sacrifices, je sais pas. Et là, le fait qu'il soit ressuscité, ça prouve que Dieu a accepté le sacrifice de son propre fils. Il y a une application qui est très intéressante pour nous, c'est que la Sainte Cène pourrait être vue comme un repas sacrificiel. Vous voyez l'étape 6, hein, des 6 étapes du sacrifice. La Sainte Cène, c'est une fête qui est associée au sacrifice de Jésus, au sacrifice qui nous accorde le pardon, la communion avec Dieu. Ça ne veut pas dire que nous mangions réellement Jésus, bien sûr, hein, comme dans le Lévitique. Manifestement, Jésus, dans 1 Corinthiens 10, a voulu spiritualiser le repas sacrificiel qui suivait les sacrifices de la loi de Moïse. Et pourquoi est-ce qu'il a voulu spiritualiser ces repas sacrificiels ? Pour faire le lien entre les deux alliances, mais surtout pour rappeler que la Sainte Cène a le même but que le repas sacrificiel. C'est pour fêter la communion retrouvée avec Dieu. Entre gens pardonnés par Dieu. Cette image est d'autant plus frappante que la scène se produisait pendant un vrai repas. Il y avait le culte, où on rappelait le sacrifice de Jésus, tout ça. Et après, il y avait une agape, et il y avait la scène pendant cette agape. Du coup, bah, voilà, ça prenait vraiment un sens, un gros sens, quoi. Hein, que, voilà, c'était comme un repas sacrificiel, quoi. Et donc, voilà. Je trouve que c'est une chose assez importante à signaler. Le chrétien, aussi, est un sacrifice vivant. Et en fait, tout à l'heure, on l'a lu, Dora l'a lu, c'est Romains 12, hein, Romains 12. Romains 12, d'ailleurs, hop, je l'ai mis, ça c'est merveilleux. Bon, en fait, il y a Galates, mais on n'a pas le temps. Romains 12. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dieu veut la consécration de notre être entier. C'est ça le sacrifice maintenant, après le sien. Il veut que nous lui obéissions, que nous ayons un comportement digne de lui, que nous soyons saints, c'est-à-dire mis à part pour lui rendre un culte, que nous soyons fervents dans le service du Seigneur avec les dons qu'on a reçus. Et c'est tout l'objet de ce que va dire Paul dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Parce que ce qui suit ça, le culte spirituel, le sacrifice vivant, c'est le fait qu'on soit bouillant pour Dieu, le fait qu'on soit motivé pour son service, motivé pour l'édification de nos frères et sœurs. Faire grandir le corps de Christ. Voilà ce que ça veut dire, s'offrir en sacrifice vivant pour Dieu. C'est bien utiliser les dons qu'il nous a faits, être motivé pour lui. Première question d'application. Où sont les rites dans nos églises ? C'est un truc. Ouais, je sais, là je pense que je vais pas me faire des copains. Mais, voyez, quand vous êtes pêcheur et que vous avez une bête qui arrive et que vous la sacrifiez vous-même et que vous dites en fait ça devrait être moi, ça vous parle. Ça vous parle. Qu'est-ce qui nous parle dans nos cultes ? Qu'est-ce qui nous stimule ? Qu'est-ce qui nous bouscule ? Qu'est-ce qui nous dit voilà, t'es qu'un pauvre pêcheur. Voilà, tu mérites vraiment la mort. Et du coup, qu'est-ce qui met en valeur le sacrifice de Jésus ? Jésus est réellement mort pour toi, à ta place, alors que tu n'avais rien demandé. Qu'est-ce qui rappelle ça ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et je n'ai pas vraiment la réponse. Hein. Mais peut-être que parfois, on a tendance à rentrer dans un petit ronron au culte. Voilà, on attend les chants pour nous scotcher au ciel. Et puis après, on écoute la parole en disant « Ah oui, c'est vachement bien. » Et puis on repart du culte et puis bah, la vie reprend son cours, quoi. La question, c'est pendant nos cultes, enfin du dimanche, mais même pendant nos moments de méditation quotidienne, ce qui pourrait s'appeler aussi culte personnel, j'ai ça pour Marion. Qu'est-ce qui fait que à la fin on est bousculé, qui fait qu'en fait on se dit ouais, ah ouais, c'est vrai, ça me rappelle que ouais, j'ai vraiment tort. Que vraiment c'est une vraie grâce que Dieu ait envoyé son fils à ma place et que du coup je dois continuer à changer de comportement. La conscience. Ouais, alors ouais, on verra plus tard. Parce que la conscience, le problème c'est qu'elle est un peu entachée par le péché aussi. Mais ouais, c'est pas bête. Est-ce que aussi, et ça va dans le côté où sont les rites, est-ce que la scène est un véritable symbole ? Est-ce qu'aussi la scène, c'est un moment où tout le monde se rappelle réellement la signification du sacrifice de Jésus, du fait que voilà, on est tous frères et sœurs et qu'on va passer l'éternité ensemble et qu'on est au bénéfice du sang de l'agneau, là je peux le dire, parce que maintenant vous comprenez ce que je dis. Ou est-ce qu'en fait c'est un ronron, alors voilà, nous allons prendre maintenant la Sainte Cène, nous allons lire l'institution de la Sainte Cène par Jésus, Jésus prie du pain, machin, prenez-en tous, machin. Un frère, une sœur veut prier pour le pain, oui, oh oui, oh oui, merci Seigneur, parce que tu t'es donné pour moi, amen. Et il prie la coupe, machin, quelqu'un veut prier, oh oui, le sang, hein. Voilà, bon, allez hop, on mange, voilà, attention, alors organisation, alors où passent les coupes, la coupe, attends, qui en a eu, qui en a pas eu, tout ça, c'est bon, hop, on peut reprendre une activité normale. Ou parfois, c'est voilà, on va se mettre en rond autour de la table. Pas top le vin. Ouais, pas top. Qui l'a acheté? Les coupes oxydent un peu le vin des fois. Hein. Ouais. Puis, sinon, des fois, en fait, on prend en rond avec des frères et sœurs et puis. Quel con celui-là. Ah oui, amen. Ouais, je pars. Pardon, je pars. Mais on voit des fois, la Sainte Seine manque un peu son but. De nous rappeler le sacrifice réel de Jésus et le fait qu'on est vraiment tous au bénéfice, ses frères et sœurs. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir aussi à des solutions pour que la Seine continue aussi de nous stimuler, de nous bousculer comme les sacrifices de l'Ancien Testament le faisaient. Et enfin, et pour terminer, où sont les sacrifices vivants? Quelles sont vos relations avec vos frères et sœurs? Où en est votre sanctification? Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Si vous êtes dans une entreprise, quelle est votre valeur ajoutée? À l'église? Voilà. Est-ce que... Voilà, si vous êtes ici, vous êtes là pour rendre service, donc j'imagine que vous êtes là pour vous offrir en sacrifice vivant. Voilà. Mais parfois, je vois des personnes dans des grandes villes, des étudiants, des gébusiens, qui passent, je ne sais pas, 6 mois, 1 an à trouver l'église qui leur correspond. Qui font une sorte de tourisme évangélique. Ils disent, oh, cette église-là, bon, allez, 5. Cette église-là, bon, allez, 9 sur 20, bien sûr. Et après, vous avez les 3-4 églises à la mode de la ville où, en fait, elles ont une petite moyenne de 12-13. Hein, voilà, et celle-là, en fait, les Jébusiens vont dedans. Mais j'ai connu aussi des Jébusiens qui venaient dans une ville et qui disaient « Bon, bah, en fait, j'ai pas d'église. » Et je leur disais « Bah, si tu veux, il y a cette église-là, cette église-là, cette église-là. » Puis ils me disaient « Non, mais dans quelle église on a besoin de moi ?» Et là, je me suis dit « Waouh ! Allez, toi, t'es responsable du groupe. Allez, toi, t'as tout compris, toi. » Parce que souvent, en fait... On vient dans une ville, on dit quelle est l'église qui me correspond? Voilà. Enfin, en gros, c'est notre nombril qui est centre du monde et on veut un truc. Voilà, c'est dans le supermarché évangélique, on veut une église qui nous fasse du bien. Et on se pose pas juste pas la question en fait en disant quelle est l'église dans laquelle je peux rendre service, dans laquelle je suis utile, dans laquelle je peux m'offrir en sacrifice vivant pour Dieu. Vous savez, la meilleure église, c'est pas l'église qui fait la meilleure louange le dimanche matin. Hein. Pas forcément. Ça peut être une église où la louange elle est un peu pourrie, où tout est un peu poussif, mais où en fait s'il y avait un peu plus de monde, comme vous, bah, les choses pourraient progresser. Et puis du coup ça pourrait devenir une église géniale. Ça peut être ça l'église qui vous correspond. Et c'est à mon avis ça, s'offrir en sacrifice vivant, c'est ça avoir compris le sens du sacrifice. Donc voilà, c'est un peu un tour d'horizon et j'ai un peu déchiré le temps de tous les sacrifices. Je pense qu'on pourra aussi se poser des questions et en parler plus tard si vous voulez, parce que là je suis conscient d'avoir été très rapide, mais on verra un peu plus en détail certains détails justement pendant toute la semaine là. Donc je vous invite à prier pour terminer et après je pense qu'il y aura un moment d'annonce. Tu peux prier, d'accord. Paul va prier et va faire les annonces.
Notre Dieu, merci parce que sans ta parole, on ne sait pas qui es-tu et aussi comment on peut s'approcher de toi. Et ce matin, tu nous as ouvert les yeux, oui, à notre péché et notre prise de conscience que tu es saint et tu demandes des sacrifices pour entrer dans ta présence. Et Seigneur, ce n'est pas de nous, mais c'est grâce à Jésus. Une fois pour toutes, il s'est offert à la croix et tout a été accompli à la croix. Seigneur, nous voulons croire avec assurance et confiance que tout ce qui est, oui, dans notre cœur, notre vie, nos pensées, est pardonné parce qu'on vient par la repentance et la foi. Seigneur, merci aussi de nous guider dans, oui, notre service dans les églises particulièrement. Beaucoup d'étudiants, quand on pense, passent d'une ville à l'autre pendant un parcours universitaire. Et c'est vrai que nous voulons, Seigneur, nous consacrer à toi, mais aussi à des frères et sœurs imparfaits comme nous. Seigneur, nous voulons, Seigneur, vraiment tenir compte de ce qui est le service, et pas de chercher ce qui nous plaît, louange ou des choses qui bougent à notre façon, qu'on connaît de notre petit village. Mais Seigneur, que ça soit ton Église, qui est notre lieu de service. Et Seigneur, que nous puissions nous consacrer à ces personnes qui sont si précieuses comme nous à tes yeux que t'a offert ton Fils Jésus. Merci Seigneur de nous guider dans nos choix, de nous changer de cœur par ce sacrifice vivant que nous voulons te donner. Amen.